Chapitre 4. Titien. Fais confiance à l'imagination. À chaque nouveau rendez-vous avec le docteur Van Horst, c'était la même mise en scène. Mona pénétrait dans la salle de consultation avec sa mère, discutait avec le pédiatre, se soumettait à quelques examens. La séance durait une vingtaine de minutes, pas davantage. De sa grosse voix rauque, le médecin parvenait souvent à la distraire. Mais Mona remarquait que ses traits d'esprit ne déridaient qu'elle. Camille, assise près du bureau, observait sa fille, le visage lesté d'un indescriptible trouble. L'enfant sortait ensuite et patientait dans un couloir lugubre pendant que sa mère restait avec le docteur. L'attente était pénible, parce que le couloir résonnait beaucoup et le bruit tambourinait dans sa tête. Pour se rasséréner, elle attrapait le pendentif autour de son cou et chantonnait. Ce jour-là, Mona perçut quelque chose d'étrange dans l'expression de sa mère. Elle s'étonna qu'elle ne lui dise rien, strictement rien. Camille se contenta une fois dehors de lui acheter un pain au chocolat, au demeurant mou et sec, dans une des gargotes de la rue d'Arcole, nichée entre deux hideuses boutiques de souvenirs. Le téléphone portable sonna, et Camille râla en regardant l'écran. Elle eut une hésitation, prit finalement l'appel. « Oui, » dit-elle. « Oui, bien sûr, je serai là. »« D'accord, d'accord. » Dans la foulée, elle composa un numéro. « Oui, c'est Camille. Bon, écoute, je suis désolé, mais demain après-midi, je ne pourrai pas vous aider. Je suis désolé, mon patron me réquisitionne pour une permanence. Promis, je viendrai vendredi matin. » Je sais qu'il sera trop tard, mais écoute, je suis désolé. C'est vraiment compliqué en ce moment. Oui, je t'embrasse.
Mona vit le visage fripé de sa mère, les poches sous ses yeux, les rides aux commissures de ses lèvres, et trouva ses cheveux courts plus ébouriffés qu'à l'accoutumée. Elle songea alors qu'elle était préoccupée depuis le début de la journée, parce qu'elle voulait consacrer plus de temps à ses multiples activités de bénévole, et qu'elle ne le pouvait pas à cause des exigences toujours plus pressantes de celui qu'elle appelait son patron. Elle songea aussi que demain, pendant que sa mère irait travailler, elle-même serait au Louvre avec son grand-père. Sur l'esplanade de l'hôtel de ville, une patinoire avait été installée, et Mona eut l'envie d'aller regarder les gens glisser. Camille l'emmena machinalement, puis l'arrêta d'un geste brusque. « Attends, ma chérie. » Elle s'accroupit, et de ses mains recouvertes de moufles bleus, tourna son visage vers elle. Mona se dit alors que sa mère allait l'embrasser, et sourit. Mais elle ne l'embrassa pas. Elle la regarda dans les yeux. Ou plutôt, elle regarda ses yeux. Il n'y avait pas d'échange, pas d'empathie entre leurs pupilles. Celle de Camille gravitait imperceptiblement autour de celle de sa fille, comme si elle y cherchait quelque chose. Mona sentit comme une vague de peur parcourir son ventre, mais percevant celle de sa mère et se disant qu'elle ne gagnerait rien à l'accentuer davantage en exprimant la sienne, elle n'en montra rien.
« Ce que tu es belle, ma chérie !» lui lança alors Camille.
Le compliment, si banal,
fit en la circonstance un bien fou à Mona, qui cette fois peina à dissimuler son plaisir.
Henri avait toujours raffolé de Venise, dont il connaissait toute l'histoire et tous les surprenants dédales. À l'époque où la foule n'avait pas encore dévasté la cité des Doges, il y avait goûté des étés éblouissants avec la femme de sa vie. Ils allaient d'ailleurs moins du côté du Rialto ou de la place Saint-Marc que dans le quartier moins prisé de l'Arsenal, où l'on croisait encore de vrais travailleurs autochtones. Devant le concert champêtre attribué à Titien, comme devant tout autre chef-d'œuvre d'un artiste de la Sérénissime, Henri sentait poindre en lui une voix intarissable, l'envie de tout dire de cet extraordinaire endroit et surtout de ce moment crucial du XVIe siècle quand vacillait sa puissance. Car Venise fut un des hauts lieux de l'Europe, de la diplomatie, de l'art, avant d'entrer en décadence à la fin du XVIIIe et d'en être réduite aujourd'hui à rejouer son carnaval pour des touristes vomis par les vaporetto. Le concert champêtre avait en son centre deux personnages masculins d'une vingtaine d'années, assis sur un parterre d'herbe vert cru et échangeant un regard sur leurs activités respectives. Celui de gauche était un garçon aux cheveux noirs coiffé d'un béret de velours, doté d'un luxueux mantelet en soie rouge aux manches bouffantes et portant des chausses bicolores. Il jouait du luth. Celui de droite, avec une épaisse tignasse frisée, pieds nus, avait revêtu une veste en cuir brun conforme aux usages de la campagne. En leur compagnie, mais de dos et légèrement plus avancée vers l'avant du tableau, était assise une femme nue et fraîche, un peu ronde, coiffée d'un chignon. Elle tenait une flûte entre ses doigts, à la verticale, sans toutefois la porter à la bouche. À gauche de la toile, une autre femme nue, assez semblable, quoique debout et faisant face aux spectateurs, s'appuyait sur la margelle du puits qui fermait la composition et y versait de l'eau avec une carafe translucide. La torsion de son buste et celle de ses jambes suivaient deux mouvements antagonistes. Ces quatre personnages occupaient le premier plan sur les cinq qui s'enfonçaient dans la profondeur. Au deuxième plan, tout à droite, un berger conduisait un troupeau de moutons et contournait un boqueteau de chêne. Plus loin, le paysage s'élevait en une colline, au sommet de laquelle l'on voyait quelques maisons. Plus loin encore, on devinait une rivière accidentée par une cascade. La nature, très vallonnée, s'étendait jusqu'à rejoindre un ciel passablement nuageux, éclairé par la lumière déclinante d'une fin d'après-midi d'été.
12 minutes sans bouger, Mona. Il y a du mieux.
C'est toi qui bouges tout le temps aujourd'hui. Tu m'empêchais de me concentrer. Alors je recommençais de zéro à chaque fois.
Et où était-il ce zéro? Par quoi recommençais-tu?
Justement, Dadé, répondit la petite après une longue hésitation. C'est difficile à dire parce que c'est comme si j'étais perdu dans le tableau. Il y a ces deux garçons habillés au milieu, et puis ces deux filles déshabillées autour d'eux, et un berger plus loin. On se demande ce qu'ils font ensemble.
Mona prit un air coquin.
Il faut être une grande personne pour savoir, hein?
Eh bien, rassure-toi, les grandes personnes ont elles aussi du mal à trouver la réponse.
Mais toi, tu poses la bonne question. Car tu as raison, c'est un étrange mélange. Pourquoi deux hommes habillés, l'un en tenue de ville, l'autre en tenue de berger, sont-ils accompagnés de ces deux femmes dévêtues? C'est précisément ce qu'il nous faut deviner. Est-ce que pour les gens de l'époque, c'était plus simple à comprendre que pour moi?
Certainement un petit peu plus, parce que les allusions, les références se modifient au fur et à mesure, et certaines d'entre elles, évidentes à une période donnée comme la Renaissance, tombent un beau jour dans l'oubli. Cela dit, dans l'art vénitien du début du XVIe siècle, les peintres aiment beaucoup draper leurs tableaux de quelques mystères. En voici un premier. Il n'y a pas de signature sur l'image. L'usage consistant à apposer son nom au sein même de l'œuvre, souvent dans un angle, ne se répand vraiment qu'entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est pourquoi il est difficile d'identifier l'auteur de notre tableau.
« Eh bien moi, » rétorqua triomphalement Mona en examinant discrètement le cartel du Louvre, « je sais qui c'est. C'est Tiziano Vesellio. »
Et elle massacra au passage la prononciation du nom.
« Oui, ma chère Mona, je te féliciterai de savoir lire un panneau quand tu amélioreras ton accent italien. »
Ce Tiziano Vecellio, Henri s'appliqua à faire résonner chaque consonne, dit Titien, était l'élève d'un certain Giorgione. Et ce fut pendant longtemps à celui-ci qu'on attribua le concert champêtre. Tout simplement parce que Giorgione avait inventé et développé le thème si déconcertant qu'on a devant les yeux, la femme nue en pleine nature.
Mais alors pourquoi aujourd'hui c'est Titien plutôt que Giorgione?
C'est un peu comme dans un puzzle. Des historiens ont trouvé dans des œuvres de Titien des éléments qu'on repère de façon disséminée dans le concert champêtre. Il y a donc un faisceau d'indices, mais pas de preuves formelles. Disons en tout cas que c'est un tableau qui est empreint de l'esprit de Giorgione. Car même si c'est Titien qui l'a peint, il l'a fait vers 1509, à 20 ans à peine, sous l'influence du maître dans l'atelier duquel il s'était formé, maître qui mourut de la peste en 1510.
Et maintenant, on peut savoir ce que font deux hommes habillés avec deux femmes nues? Attends, je vais d'abord dissiper un deuxième mystère. Ne t'es-tu pas demandé pourquoi un élégant jeune homme joue du luth, épaule contre épaule, avec un garçon de la campagne à sa gauche? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Dans l'ensemble, Titien cherche à produire un effet d'harmonie, de continuité. Le paysage avec ses vallons, son ruisseau, sa maison et ses arbres, le berger conduisant ses bêtes, les deux personnages centraux, l'un citadin et le second campagnard, semblent s'allier dans l'atmosphère d'une fin de journée, rendue grâce à la qualité d'une peinture au ton crépusculaire magnifiquement modulé. Si un homme de la ville et un homme des champs se rencontrent sans s'opposer plus que cela, c'est parce que Titien cherche à exprimer l'accord parfait, l'accord d'un beau son, d'une belle mélodie. Oui, c'est bien ce charmant concert en plein air qui lie tout ce petit monde ensemble.
Tu oublies les deux femmes nues, Dadé. Pourtant, celle qui tient une flûte participe au concert, dit.
On pourrait le penser, en effet. Mais ce n'est pas le plus vraisemblable. Plutôt que de croire que cette femme nue jouant de la flûte et celle-là qui verse une carafe d'eau dans un puits sont réellement en compagnie des deux hommes, il faut se figurer qu'elles sont le fruit de leur imagination. La voilà la clé de l'énigme. Le concert que l'élégant garçon de la ville interprète aux côtés de celui de la campagne invoque les deux jeunes femmes et les fait apparaître dans leur esprit. Et c'est comme si ce citadin, ce superbe aristocrate, s'était en fait réfugié dans la nature, dans cet univers pastoral, pour y laisser s'exprimer son goût de la poésie, du chant, et encore une fois, je te le répète, de l'imagination. À la Renaissance, on appelait celle-ci par le joli mot de « fantasia ». Et la fantasia connut un véritable âge d'or, une promotion sans précédent.
Il veut parler d'amour, en fait, l'artiste.
Ce n'est pas faux. Bien sûr, dans ce tableau de Titien, les deux nymphes sont belles et sensuelles. Bien sûr, on peut se douter que cette image mentale n'est pas étrangère au désir amoureux et qu'elle s'apparente à un fantasme. Mais vois-tu, je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Car ces deux femmes, l'une avec sa flûte, l'autre avec son vase, sont des allégories de la création et de la rêverie poétique. Le concert en pleine campagne agit comme une mise en mouvement de l'imagination, qui elle-même produit des motifs de l'imagination. Parce que l'imagination appelle toujours davantage d'imagination, qu'elle court le long d'une spirale qui se nourrit de son propre mouvement. Ce tableau nous raconte cette excitation merveilleuse qu'il y a à s'imaginer les choses toujours plus profondément, et il nous invite à faire confiance à cette prodigieuse faculté grâce à laquelle l'invisible devient visible et l'improbable possible. Mona fronça les sourcils et loucha vers sa gauche pour inviter son grand-père à se tourner discrètement. Il comprit le message et s'exécuta. Il n'en avait d'abord rien remarqué, mais de toute évidence, une dame d'un âge respectable, dotée d'un châle vert, légèrement poudré, se tenait près d'eux depuis un petit moment et avait discrètement écouté la conversation. Elle rougit, toussota, et s'éloigna d'un pas preste.
On aurait dit qu'elle était amoureuse, Dadé.
Tu as trop d'imagination, Mona.